ce matin. Je remarque que le temps de vacances m'a fait du bien. Je retrouve le trac que j'avais au tout début lorsque je prêchais.
Alléluia.
Alléluia, voilà. On dit que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais quand même, il y a une certaine appréhension de revenir ici. Voilà, je suis très heureux de pouvoir méditer avec vous ce matin sur cette thématique, sur cette question-là. Vivre une vie de bénédiction, est-ce possible? J'entends voix amen qui veulent dire oui. Et on va voir comment c'est possible. Et je vous invite à méditer ce matin ensemble le psaume 1. Et sans transition, je vous invite à le lire. Heureux l'homme et la femme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'était pour la partie cool. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Savez-vous quelle image résume, selon moi, le mieux ce psaume? Peut-être même en bonus, quelle image résume l'entier du livre des psaumes? Je vous laisse réfléchir, peut-être une image qui vous viendrait à l'esprit.
Un banc.
Un banc. Un arbre.
Le berger,
le berger et ses troupeaux.
Un soleil.
Un soleil. Pour ma part, c'est cette image-là. Ça parle à certains amateurs de randonnée. Pour moi, cette image résume à elle seule tout le livre des psaumes. Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est une bifurcation. On arrive d'un endroit et on a le choix d'aller dans une direction ou dans une autre. Et la vie contient de nombreuses bifurcations. Quel métier est-ce que je vais faire? Avec qui est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais déménager? Et lorsque je mourrai, est-ce que j'irai au paradis ou en enfer? Toute la vie est marquée par des bifurcations, par des choix que nous devons faire. Et je crois qu'on est toutes et tous concernés par ces bifurcations. Et dans ce psaume 1, nous sommes confrontés à deux hommes, deux routes, deux destins, à deux approches de la vie différentes. L'un des chemins est béni, et c'est ceux qui suivent Dieu. Et l'autre, c'est la route tragique de ceux qui suivent la voie des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Tout le livre des psaumes, si vous voulez vous amuser à le relire, parle de ces deux voies, de cette voie qui mène à la bénédiction et de cette voie qui mène à la perte, au chagrin. Ce psaume se divise en deux parties. D'abord, les versets 1 à 3, la partie la plus cool, celle qu'on se souvient volontiers, et la partie un peu moins agréable, les versets 4 à 6. Mais ces deux parties ont pour but de nous mener, de nous conduire à prendre la bonne bifurcation, à prendre la bonne direction, à savoir nous conduire sur le chemin de bénédiction. C'est chouette, non? On continue? Alors la première partie, les versets 1 à 3, on pourrait les appeler « atteindre la vie qui plaît à Dieu ». Comment est-ce que je peux atteindre la vie qui plaît à Dieu? Et dans ce psaume, dans ces trois premiers versets, on voit que la sagesse consiste autant à savoir quand il faut dire oui, mais aussi quand il faut dire non. La sagesse implique de dire oui et de dire non aussi. Savoir quand dire non. Non, voilà. Le verset 1 nous donne trois domaines dans lesquels nous devons dire non. Je les ai surlignés en rouge. Ne suis pas le conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'assieds pas avec les moqueurs. Voilà ce à quoi il faut dire non. Et la personne qui dit non à ces écueils-là vit une vie gratifiante, comme le montre le premier mot du psaume, heureux. Alors, d'un point de vue littéral, ça paraît assez simple de se dire, effectivement, je ne m'assieds pas sur le banc des moqueurs. Mais si on regarde les réalités, ce qu'il y a un petit peu derrière, on voit que c'est plus subtil que cela. Et si on adopte une vision large, on peut voir que les verbes que le psalmiste a utilisés, on voit que les verbes comme suivre, s'arrêter, s'asseoir, reflètent des habitudes de vie. Et ces verbes impliquent la notion de rester, de demeurer, de rester un moment. Ce n'est pas juste passer vite fait, je m'assieds, je prends le temps d'être sur le banc des moqueurs. Ensuite, il y a les influences. Suivre le conseil, la voix, la compagnie. Voilà toutes des choses qui peuvent nous influencer. D'ailleurs, il y a un métier très en vogue sur les réseaux sociaux, celui d'influenceur. Certains sont bons, d'autres un peu moins. Mais on voit qu'il y a un objectif dans notre société, surtout pour la jeune génération, qui est d'influencer les autres. Attention aux influences. Ensuite, il y a nos fréquentations. Le psalmiste mentionne des personnes. Il y a d'abord les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Les moqueurs décrivent les personnes qui se suffisent à elles-mêmes, qui pourraient dire avec orgueil « Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais vivre ma vie à ma façon. » Ceux qui vivent pour Dieu, de toute façon, ces chrétiens, voilà à quoi ressemblerait un moqueur. Par ces exemples, ce psaume nous exhorte à faire attention à nos habitudes de vie, aux influences qui nous entourent et à nos fréquentations. Ça ne veut pas dire éviter toute personne qui ne serait pas chrétienne, loin de là. Mais attention de ne pas s'asseoir avec, faire équipe avec. Attention aux influences, et il y en a beaucoup. On suit facilement des personnes, on s'identifie à des personnes, et ces personnes façonnent inévitablement notre conduite. Le réformateur Jean Calvin a dit ceci, « C'est par petites touches que les hommes sont ordinairement amenés à se détourner du droit chemin. » C'est par petites touches. Certains médias, certains réseaux sociaux, avec la puissance des algorithmes aussi de YouTube, on peut facilement être influencé dans une voie ou une autre. Voilà à quoi nous devons dire non. Non aux méchants, non aux pécheurs, non aux moqueurs. Et si nous disons non à ces personnes-là, nous pourrons vivre une vie de plénitude, une vie gratifiante qui plaît à Dieu. Maintenant, venons-en à savoir quand dire oui, ou plutôt à quoi dire oui. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu pour s'imprégner de sa sagesse et porter du fruit. Vivre la volonté de Dieu. Voilà à quoi ressemblent les ingrédients qu'il faut pour vivre une vie spirituellement gratifiante. Et si je me permets de reformuler le verset 1 de manière positive, on pourrait lire « Heureux l'homme qui marche dans le conseil des sages, qui se tient sur le sentier des justes et qui s'assied dans la compagnie de ceux qui ont de l'espoir. » Cette personne étudie la parole de Dieu, elle agit avec sagesse, elle se consacre à la volonté de Dieu. Et là, on voit que l'important, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. Une journée de 24 heures contient 1440 minutes, soit 96 quarts d'heure. Combien de ces quarts d'heure est-ce que je consacre par jour à lire et méditer la parole de Dieu ? Si vous devez retenir un chiffre de ce matin, c'est 96. Combien de quarts d'heure je consacre par jour ? Même un seul. Est-ce que je consacre un quart d'heure sur 96 à méditer, à lire la parole de Dieu ? Alors cette question ne cache pas du tout une morale que je cherche à vous faire. Elle me concerne aussi. Et je crois que bien souvent les pasteurs négligent aussi ce côté de piété personnelle. On a le piège aussi que la Bible devienne un instrument de travail. Mais combien moi-même de ces quarts d'heure dans la journée je consacre pour lire et méditer la parole ? C'est un défi qui m'habite aussi. Prenons la deuxième partie de ce psaume, les versets 4 à 6, qui ne sont pas si chouettes à entendre, mais finalement qui nous enseignent à fuir la vie qui déplaît à Dieu. On a vu comment atteindre une vie qui plaît à Dieu, dire non à certaines choses, dire oui à d'autres. Maintenant, on va regarder ce qu'il faut fuir. Ces versets 4 à 6 qui nous disent « Les méchants, au contraire, ressemblent à de la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » On voit que le psalmiste utilise ici des métaphores. Et ces métaphores, j'en tirerai trois enseignements. Le premier, c'est s'éloigner de la vie inutile. Verset 4. La métaphore de la paille est utilisée. Les méchants ressemblent à de la paille que le vent disperse. Alors cette image de la paille était familière aux premiers lecteurs, aux contemporains du psalmiste, parce qu'à chaque moisson, comment on faisait pour extraire le grain de l'épi, c'est qu'on tapait le grain avec un fléau, j'allais dire un truc, mais merci. On tapait le grain avec un fléau, et puis après on exposait tout ça au vent. Et puis la partie la plus légère s'envolait, et la partie la plus légère c'est la balle, c'est ce qui enveloppe le grain. Et cette partie s'envolait. C'était comme ça qu'on triait le grain, qu'on séparait le grain de la balle. Le vent emportait tout ce qui était donc inutile. Et la paille de ce verset montre bien que ce qui est passager est inutile. Il montre bien que les méchants n'ont ni racine, ni fondement, ni subsistance. Ils ne vont pas rester. Ils manquent de ce qui donne un sens profond à leur existence. Ces méchants, ce sont ceux qui mènent finalement une vie inutile pour Dieu, mais inutile aussi pour les autres. Autrement dit, ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes, pour leur ego. Il y a tellement de possibilités dans notre société de pouvoir vivre une vie inutile. Tellement de distractions possibles. Alors je ne dis pas qu'il faut, je ne défends pas une vie monacale, mais beaucoup de choses peuvent être inutiles, nous encombrer. Et peut-être même sous des beaux attraits. Par exemple, la mode du développement personnel, je ne suis pas opposé à ça, faire un travail sur soi, il y a des belles opportunités. Mais quand on pousse cela trop loin, ce n'est pas seulement mieux se connaître, c'est presque un culte de soi. Attention, s'éloigner des choses inutiles. Qu'est-ce qui est utile dans notre vie ? Les versets 1 à 3 nous montrent que c'est la parole de Dieu. Mon deuxième point, s'éloigner de la vie insensée. L'insensé vit comme s'il ignorait le jugement. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Que j'aille à gauche, que j'aille à droite, peu importe la bifurcation que je prends, quelle différence ? Est-ce que je vais avec ceux qui me rapprochent de Dieu ou avec ceux qui m'en éloignent ? Ce n'est pas mon problème. Ce qui compte, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. L'insensé ne tient compte que du présent, de son bien-être actuel. Il n'a pas une vision à long terme. Il ne tient pas compte des conséquences de ses actes. Ce psaume nous rappelle que nous serons tous présents lors du jugement, mais qu'on ne tiendra pas tous debout. À nouveau, cet exemple négatif nous indique que la bifurcation à suivre est celle de la méditation de la parole de Dieu. Troisième enseignement qu'on peut tirer pour fuir une vie qui déplaît à Dieu, c'est s'éloigner de la vie sans espoir. Une des voies de la bifurcation est porteuse d'espérance, l'espérance d'une bénédiction. La voie des méchants mène à la mort spirituelle et au chagrin. Jésus, dans les évangiles, a souvent parlé de deux voies. Il a parlé de deux portes, une porte étroite menant à la vie et une porte menant à la destruction. Il a également parlé de deux routes, de deux arbres, de deux types de fruits, de deux maisons, de deux fondations. Vous pouvez trouver cela dans Matthieu 7, le serment sur la montagne, qui, comme ce psaume, commence aussi par « heureux ». Dans chaque voie, il y a soit la bénédiction, soit la mort et le chagrin. Il n'y a pas de voie médiane. Est-ce que c'est facile d'être cet homme du verset 1 à 3 ou cette femme du verset 1 à 3 ? Rester profondément enraciné dans la parole, ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Je trouve que ce n'est pas facile. Par contre, il y a un homme qui a réussi parfaitement dans cette voie-là. Cet homme, c'est notre Seigneur Jésus. Personne d'autre que lui n'a pu être cet homme parfaitement sage et juste. Et Augustin a dit ceci. J'ai oublié mon PowerPoint. Cette affirmation doit être comprise comme référent à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire au Seigneur homme qui ne s'est pas égaré. Le Christ s'est certainement trouvé sur le chemin des pécheurs en naissant comme eux, mais il ne s'y est pas tenu, car les séductions du monde ne l'ont pas retenu. Jésus est l'homme de ce psaume 1, et il nous met au défi de le suivre sur le chemin qui mène à la vie. Comme cela a été dit dans les prières, non pas de manière sadique, jugeante, mais avec amour, il nous invite à le suivre sur ce chemin. Et cette route ne nous décevra pas. Alors pourquoi est-ce important de se rappeler que Jésus est l'image parfaite de l'homme qui est décrit dans ce psaume ? On pourrait vite tomber dans une liste de tâches à faire. Il faut que je lise plus ma Bible. Il ne faut surtout pas que je fréquente telle personne. Et puis finalement, on peut vivre dans une sorte de crainte. On peut se mettre un poids aussi à respecter parfaitement ces commandements qui sont quand même assez difficiles à accomplir. Bonne nouvelle, Christ l'a fait à notre place. Il a suivi parfaitement la voie, cette bifurcation de ce psaume 1. Par sa mort à la croix et sa résurrection, nous sommes donc libérés du poids de la perfection. Si on accepte que Christ est mort et ressuscité pour nous, nous sommes unis à Christ. Ainsi, ce qu'il a accompli en restant sur le droit chemin, ça nous est donné. On peut à notre tour suivre cette bifurcation. Certainement, il y aura des moments de doute, d'errance. On ne va pas être parfait. Mais parce que Jésus a marché parfaitement sur ce chemin, Il nous dit, mais moi je te mènerai jusqu'au bout. Engage-toi à me suivre. Si tu dégares, ce n'est pas grave. Ceux qui font des courses de montagne, on peut vite être des fois pris par le brouillard. Et c'est difficile de garder la trace. Ça nous arrive de nous tromper. Des fois, c'est des petites marques pour suivre le chemin. C'est des petites marques posées au sol, sur un caillou. Il suffit qu'il soit un peu caché et on peut vite partir dans une autre voie. Mais Jésus, lui, a marché sur cette voie de manière parfaite. Et par Jésus, nous pouvons être ces hommes et ces femmes qui marchent sur ce droit chemin. Ce que Jésus nous dit dans ces temps troublés où l'actualité peut nous faire peur, où il y a des défis, des enjeux, ce que Jésus nous dit, c'est « reste attaché à ma parole ». Moi, j'ai accompli ce chemin, mais si tu veux me suivre, reste attaché à ma parole. Telle est la conclusion de ce psaume 1. Je vous invite à poursuivre la réflexion. On va prendre un petit moment de silence. Il y a une musique. Ah ben c'est parfait. On va prendre un petit moment de silence et je vous invite aussi à prendre ces questions avec vous pour les méditer durant cette semaine. Première question, comment est-ce que vous réagissez normalement aux bifurcations ? Est-ce que vous avez tendance à éviter ou à prendre en compte l'avis des autres ? Est-ce qu'on peut être dépassé par les décisions qu'on doit prendre ? Pourquoi ? Deuxième question, de quelle manière les personnes qui vous entourent influencent-elles votre façon de penser ? Et puis ce que vous faites ? Comment est-ce que les chrétiens peuvent-ils être une lumière pour ceux qui ne connaissent pas Dieu sans devenir comme eux ? Le temps que vous consacrez à la parole de Dieu indique-t-il que vous aimez sa parole ? Comment pouvez-vous renouveler et accroître votre amour pour la parole de Dieu lorsque vous avez l'impression que c'est un fardeau ou un devoir ? Voilà des questions qui mérite plus que quelques secondes de réflexion que je vous invite à reprendre avec pour vos groupes de maison ou pour le repas de midi en famille.